Écho d'économie.
L'ICIE RDC a reçu les rapports sur les revenus de la quasi-totalité d'entreprises minières. 948 millions de dollars, c'est la somme globale déclarée. La RDC espère donc voir lever sa suspension du processus ICIE. 100 tonnes de marchandises depuis jeudi dernier au port de Ndomba dans le Kasaï oriental. 5 ans plus tard, cette première baleinière qui arrive avec notamment du carburant appartient à un opérateur économique de la province. L'actualité dans le Nord Kivu, c'est le nombre d'emplois engendrés par l'activité de pisciculture dans le territoire de Walikale. Plus de 1000 personnes s'adonnent à la production, mais aussi à la vente de poissons frais qui, depuis, coûtent moins cher. Bonsoir à tous. 128 entreprises minières de la RDC ont livré à l'ICIE les données de leurs revenus issus du secteur extractif. La somme globale déclarée est de 948 millions de dollars américains. Le coordonnateur de l'ICIE RDC annonce avoir publié le 31 décembre dernier, comme prévu, le rapport 2011 sur la transparence dans les industries extractives en RDC. Le professeur Mac Doumba en parle avec François Kadima.
La République démocratique du Congo avait été suspendue pour 12 mois temporairement de l'ITIE parce que son dernier rapport et sa validation n'étaient pas concluants. Alors, on avait exigé à la République démocratique du Congo de publier un autre rapport portant sur l'année 2011 au plus tard le 31 décembre. Et donc, cette décision a été communiquée à la République démocratique du Congo le 17 avril 2013 et qu'il fallait publier un autre rapport et améliorer le périmètre des entreprises et tout cela. Et donc, à partir du mois de juillet que la République s'est réengagée de nouveau, a fait l'étude de cadrage, a terminé au mois d'octobre et en novembre, cette étude de cadrage a été publiée et que les périmètres ont été définis pour les mines et le pétrole. Et c'était très très difficile d'arriver avec un pays immense comme celui-ci à publier un rapport dont la collecte des données a débuté donc en mi-octobre jusqu'au 2 novembre. D'ailleurs, il vous souviendra que le délai était fixé au 2 novembre pour que toutes les entreprises donnent. Mais j'ai la bonne nouvelle. La deuxième partie du rapport est sortie avant le 31 minuit parce qu'en fait on a publié le rapport en deux temps, partie secteur hydrocarbures et secteur mines. Le secteur des hydrocarbures a été publié au mois de novembre et le secteur des mines qui était crucial et attendu de tous, nous sommes arrivés à le publier le 31 décembre à 18h, il est sur le site et il a été publié.
Alors que dit ce rapport?
C'est un des meilleurs rapports, le rapport des hydrocarbures. Nous l'avions déjà publié, des rapports que nous avons reçu des échos. Il n'y a rien à redire sur les hydrocarbures. Le périmètre est parti des 11 entreprises en 2010 à 26 qui ont déclaré et nous avons atteint le chiffre pour les hydrocarbures de 465 millions de dollars qui ont été déclarés par l'État et par les entreprises et l'écart absolu est de 1500 dollars seulement. Et aussi, pour les mines, nous avons atteint un périmètre qui est parti de 49 à 83 entreprises minières, plus 35 entreprises qui ont déclaré elles-mêmes et les régies financières. Et nous avons atteint 948 millions de dollars qui ont été déclarés par les entreprises et par l'État et l'écart absolu est de moins d'un million de dollars. Nous sommes dans le temps, nous avons publié et que nous attendons maintenant la décision du conseil d'administration qui va analyser notre rapport et dire sa décision.
Pendant ce temps, au sud Kivu, le trafic illicite de minerais entre le territoire de Fizi et les pays voisins préoccupe au plus haut point le CESC. Le représentant de ce centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses à Uvira et Fizi affirme que pour la première fois, le territoire de Fizi a produit 18 kilos d'or en 2013 contre nulle production pour les 10 années précédentes. Pourtant, selon lui, 12 coopératives minières installées dans les zones d'exploitation de Missisi et ses environs produisent chacune pas moins de 20 kg par mois. Modeste Rukumuza Aliseko, qui accuse ces coopératives minières précise que la plupart se sont transformées en comptoirs d'achat et de vente d'or pour échapper au circuit officiel. Il sollicite donc l'implication des autorités provinciales pour mettre fin à ce trafic illicite d'or. On l'écoute au micro de Fiston Goma.
Il y a de creusés artisanaux qui exploitent illicitement sans autorisation. Plus de 12 coopératives, 4 coopératives qui ont déjà construit 6 usines de traitement des déchets. Et chaque usine peut produire au-delà de 20 kilos d'or par mois. Mais la destination de cet or n'est pas connue. Nous avons des services techniques qui viennent appuyer le ministère des Mines. C'est le CESCAM qui constate la production et la fait cheminer dans les canon officiel vers le comptoir d'IMA agréé par l'État congolais. Et là, au comptoir, nous, les CFC, nous sommes là pour enregistrer les statistiques de production de chaque territoire.
La réalité, c'est quoi?
La réalité, la production part à Tanzanie, part au Burundi, part en Ouganda, et ce sont les pays qui nous agréent chaque fois. Mon inquiétude, c'est quoi? Ces entités-là de traitement, ce sont des entités de traitement de pays voisins pour exploiter illicitement nos minéraux. Moi, je voulais que les auteurs ouvrent les yeux, qu'il y ait un suivi rigide en respectant les arrêtés, les codes miniers et le règlement minier.
Je voulais annoncer, une baleinière transportant 100 tonnes de marchandises est arrivée jeudi 2 janvier dernier au port de Ndomba. C'est dans le territoire de Kabeya Kamwanga, dans la province du Kasaï-Oriental. La baleinière et la cargaison de carburant appartiennent à un opérateur économique de la province. Pour rappel, l'absence de balisage a rendu la navigation difficile sur la rivière Loubi, comme nous l'explique François Tchibengé.
La baleinière MB Wabansenda a mis 6 jours de navigation entre Lusambo et les ports de Ndomba. De Kinshasa à Lusambo, 1 mois et 3 semaines sur les eaux. De Lusambo au port de Ndomba, c'est une voie non balisée, comme le témoigne Jean-Pierre Moukeba, propriétaire de la baleinière et de la cargaison.
Il y a eu une cargaison de 100 tonnes, puisque la voie était vraiment compliquée et difficile. On faisait en même temps et la navigation et le balisage. Il fallait débrancher, il y avait des arbres qui surplombaient les débords de la rivière Loubi.
Cette baleinière n'a transporté que le carburant, essence et mazout. Mais un autre bateau avec 300 tonnes de ciment et carburant est accosté au port de Lusambo. La Fédération des entreprises du Congo Kasaï Oriental dit sa satisfaction. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Au lieu que le bateau s'arrête à Lusambo, que le bateau continue jusqu'ici à Ndomba, la voie fluviale est la voie la moins chère. Si nous pouvons facilement acheminer nos marchandises au moindre coût, nos entreprises seront compétitives. Et là, ça aura de l'incidence sur le prix.
L'administrateur du territoire de Kabeya Kamwanga déclare que ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas enregistré une seule baleinière au port d'Ndomba. William Biya souhaite que cette voie s'ouvre définitivement pour désenclaver la province. Mbujimayi, François Tchibengi, Radio Okapi.
Merci François Tchibengi. C'est à présent au tour de François Kadima de prendre le micro pour nous dire un mot sur le transport fluvial en République démocratique du Congo.
Commençons par dire que le transport en RDC a toujours été un défi en raison de la morphologie du terrain et des conditions climatiques difficiles. Les réseaux ferroviaires et fluviaux à l'origine incomplets pour des raisons historiques ou géographiques ont vu leur état général se dégrader depuis l'indépendance à cause notamment des conflits survenus. Puisque c'est les réseaux fluviaux qui nous intéressent aujourd'hui, précisément le transport fluvial et maritime, retenez que la RDC dispose d'un vaste réseau fluvial avec environ 16,238 km d'eau navigable et de lacs. Ainsi, le fleuve Congo et ses affluents offrent un accès vital à moindre coût pour les transports dans l'arrière-pays. La plupart du temps, les réseaux ferroviaires et routiers sont construits relativement ou en complément du réseau fluvial. La plus grande partie des services des transports fluviaux de la RDC est assurée par de petits exploitants privés informels pour lesquels on ne dispose pas de statistiques sur les activités. Sachez tout de même que ce réseau des voies navigables est subdivisé en trois biefs. Il y a le bief maritime long des 150 km des Bananas à Matadi, le bief moyen comprenant le fleuve Congo allant de Kinshasa à Kisangani, la rivière Kasai et leurs affluents totalisent 13,458 km, et le bief supérieur comprenant les Lualaba, donc le fleuve Congo au Katanga et le lac totalise 2,630 km. Comme les événements le démontrent, les réseaux fluviaux rencontrent beaucoup de difficultés, notamment à cause du manque de balisage, ce qui handicape l'évolution du trafic sur les eaux. D'où des cas comme celui du Kasaï Oriental où un bateau accoste après 5 ans. Par ailleurs, un programme pour la renaissance du secteur des transports à travers le projet de transport multimodal lancé en novembre 2004, évalué à 255 millions de dollars, concerne également le réseau fluvial.
Écho d'économie. Au Nord Kivu, depuis une dizaine d'années, la pisciculture artisanale se développe dans le territoire de Walikale. À présent, cette activité est devenue lucrative, occupe plus de 1000 personnes dans ce territoire, les unes productrices et d'autres marchands de poissons. C'est ce que nous dit Bernardin Nyangui qui a séjourné il y a une semaine à Walikale.
En territoire de Walikale, l'élevage de gros ou petits bétails n'est pas pratiqué du tout et la viande fraîche ou boucanée se fait rare. la petite quantité disponible coûte cher. Conséquence, il y a carence de protéines animales et les habitants ont trouvé une solution alternative. La pisciculture artisanale individuelle qui aujourd'hui devient attrayante et le poisson frais, le tilapia pour la plupart, est permanent au marché central de Walikale. Cette activité a pris plus d'importance. Depuis la suspension, il y a quelques années, des activités minières à Walikale. Plusieurs habitants ont alors rejoint ceux qui vivaient déjà de la pisciculture. Présentement, deux associations de pisciculteurs et vendeurs de poissons se sont créées. C'est le cas des REPI, Réforme de la pisciculture de Walikale, qui regroupe 870 pisciculteurs et environ 200 vendeuses de poissons. Et du coup, non seulement cette activité est créatrice d'emplois pour les habitants de ce coin du Nord Kivu, mais le prix du poisson frais a baissé sur le marché. Un tas de 3 à 5 poissons par exemple coûte environ 1000 francs congolais. Seulement, ces pisciculteurs de Walikale demandent un appui technique du gouvernement pour améliorer davantage leur production. Goma, Bernard Nyangi pour Radio Kapi.
Ainsi s'achève ce numéro d'Écho d'économie, une émission supervisée par Nicole Ngaka, réalisée par François Kadima, mise en onde par Willem Lungamba et suivie par vous. Merci.